Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Dans cet épisode, nous allons parler des relations de couple et surtout de la thérapie de couple. Pourquoi consulter? Qu'est-ce qui amène les couples à commencer une thérapie? Mais surtout, nous allons voir les pièges et les fausses croyances dans lesquelles les couples peuvent tomber et qui peut amener à de la satisfaction sexuelle. Pour cela, j'ai à mon micro Myriam Breiki, sexothérapeute et thérapeute de couple. Elle regroupe près de 140 000 abonnés entre son TikTok et son compte Instagram Sex Actualité. Myriam a récemment sorti son premier livre, Le carnet de voyage intime. Conçu comme un journal intime, avec de nombreux conseils, des exercices d'exploration qui permettent de se poser les bonnes questions pour trouver de l'épanouissement dans sa vie intime. Si vous suivez Myriam, vous deviendrez vite addict à sa dose de bonne humeur et ses conseils qui tombent toujours si justement. Myriam, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Camille, je te remercie pour ton invitation, merci.
Bah avec plaisir. Alors du coup, on va parler de thérapie de couple, de ce qui se passe en cabinet, de ce que tu, toi, de ce que tu vois dans ta pratique, de ce que tu entends. Et déjà, ma première question qui me vient, c'est quelle est la raison numéro une qui pousse les couples à faire une thérapie ensemble, qui pousse les couples à venir te voir?
Je crois que la toute première raison que j'observe, j'ai pas de chiffres en tête, mais je dirais au moins pour 90% des chiffres. Des personnes qui arrivent au cabinet, c'est la communication.
Donc des problèmes de communication.
Ouais, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive plus à communiquer et on est là parce que bah, du coup, on pense bien que la communication, c'est un petit peu la base du reste.
Hein. Ouais, effectivement. Donc c'est pas forcément la porte d'entrée de la sexualité, mais vraiment eux-mêmes définissent que c'est la communication ou c'est toi, des fois, tu les vois, ils entrent par la porte de on a un problème sexuel et qui finalement définit que ça peut être un problème de communication. Est-ce que c'est eux qui amènent ce problème de communication ou est-ce que c'est toi?
En fait, ça dépend vraiment. Moi, j'ai cette double casquette, hein, sexothérapeute, thérapeute de couple. Donc il y a des personnes qui vont arriver pour une première approche en disant bah, on arrive là pour une thérapie de couple. Et puis, on va se rendre compte que dans la sexualité, ça ne va pas non plus, mais parce qu'on part d'une mauvaise communication, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont arriver avec un problème dans la sexualité, mais qui, du coup, émanent d'un problème, du coup, dans le couple et de communication, tu vois?
Ouais. Il y a des fois plusieurs portes et souvent, en fait, moi, je dis souvent que quand on vient avec un problème, une difficulté sexuelle, souvent c'est la pointe hein, de l'iceberg. Et puis finalement, quand on creuse, il y a plein de choses. Et dont souvent la base, comme tu dis, c'est le problème de communication. Et je pense que tu vas en parler rabâché tout au long de l'épisode et on verra pourquoi ça va être important, cette communication. Mais commençons un peu concrètement sur pourquoi, en fait, pourquoi faire une thérapie de couple ? Je prends un peu le truc un peu à l'envers, mais pourquoi faire une thérapie de couple ? Et qu'est-ce que les gens viennent chercher, en fait, finalement ?
Alors, pourquoi faire une thérapie de couple ? Parce que, alors moi, souvent, avec beaucoup d'humour, je dis parce qu'on n'a pas de mode d'emploi, en fait, sur comment on fait couple. Il n'y a pas un best-seller international qui nous apprend comment, aujourd'hui, on est heureux dans le couple, comment on ne faute pas dans notre couple, comment on est bon dans notre couple, et que, du coup, ben, les personnes font un petit peu avec ce qu'elles ont, avec ce qu'elles peuvent faire, avec leur histoire de vie, et que quand les couples, quand les personnes se rencontrent, comme je leur explique souvent, elles se rencontrent chacune avec leur sac à dos de vie, tu vois, et que quand on n'a pas connaissance de tout ce qui peut se passer, tout ce que ça va engendrer, eh ben, ça devient compliqué. Donc, la première chose, je pense qu'on vient consulter un thérapeute parce qu'on n'a pas de mode d'emploi et qu'on attend plus ou moins un mode d'emploi. Sauf que je n'ai toujours pas, moi, le mode d'emploi.
Ah, mince alors.
Moi, si je l'avais, je pense que j'aurais déjà fait un best-seller, en fait. Je ne serais plus au cabinet, je serais millionnaire, je crois. Mais c'est surtout que le mode d'emploi, il sera impossible à faire. C'est surtout ça, en fait, que je me dis. Parce que faire un mode d'emploi, ça voudrait dire penser que tous les couples sont pareils. Donc, ce n'est pas possible. Et la thérapie de couple, elle permet surtout de prendre chaque couple et chaque individualité dans le couple avec tout ce qu'ils sont pour pouvoir faire fonctionner cette entité à part entière qui est l'autre.
Ouais, c'est à ça qu'elle sert. Et comme tu dis, si justement, et j'ai envie de rebondir un peu là-dessus en disant, bah si, il y a quand même des best-sellers, il y a quand même des ouvrages qui expliquent, comme tu dis, qui offrent quelques recettes, qui expliquent des choses comme ça, mais ce n'est pas personnalisé, d'où la thérapie de couple, où là, vraiment, comme tu dis, tu accompagnes les personnes selon leur singularité, leur individualité et au sein du couple et comment arriver à jongler entre les besoins, les envies des uns, des unes, des autres. Et parce qu'en soi, quand on est célibataire, bon, ben, on peut un peu suivre plus facilement ses envies, ses désirs. Et puis quand on est en couple, il faut quand même des fois s'aligner avec aussi l'autre personne. Je sais que c'est quelque chose que tu fais des fois aussi en séance, d'essayer de naviguer en tout cas entre les envies, les besoins des uns et des autres par rapport à ça, la thérapie de couple.
Oui, naviguer, c'est surtout être capable de mettre en évidence les besoins de chacun. Parce que quand on arrive en thérapie, bien souvent, on va pointer tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire, là, je ne me sens pas entendue, pas écoutée, pas regardée, pas ci, pas ça. Et rarement, en fait, je pense qu'on ne nous a déjà pas appris à être centrée sur nous-mêmes. Tu vois, Camille, à se dire, mais en fait, OK, est-ce que je suis légitime déjà à avoir des besoins ? Est-ce que j'arrive à me connecter à moi ? À ce dont je peux avoir envie, et est-ce que je m'autorise cette légitimité-là à le verbaliser à mon partenaire ou même aux tierces, hein, à toute personne qu'on peut rencontrer dans notre vie, hein, finalement. Ouais.
Et ça s'applique plus, j'ai l'impression que tu parles plus au nom des femmes, ou est-ce que tu le vois aussi chez les hommes ?
Je pense que je le vois principalement chez les femmes, vraiment principalement chez les femmes, mais ça s'applique aussi chez les hommes. On peut pas dire que... Je ne pourrais pas dire 50-50, mais je dirais bien un 60-40, tu vois. Même les hommes, en fait, tu vois, les hommes, quand parfois, ils ont simplement le besoin d'exprimer leurs émotions et qu'ils vont dire, mais en fait, moi, on n'a pas appris ça, je ne sais pas ça. Donc, il va dire à sa femme, mais tu ne m'écoutes pas. Oui, mais est-ce que tu arrives à lui exprimer les choses ? Est-ce que tu es connecté avec ce que tu... Est-ce que tu peux poser des mots ? Tu vois ? Et bien souvent, c'est non, mais non, parce que l'éducation, eh ben, moi, Myriam, on ne m'a pas appris à communiquer. Moi, Myriam, quand j'étais petite, on me disait qu'un garçon ne pleurait pas. Moi, Myriam, dire quand ça ne va pas, c'est pas possible parce que je dois être celui qui porte un petit peu le foyer. Donc, pour les hommes aussi.
Ben oui, comme tu dis, on ne leur a pas appris aussi à se connecter avec leurs émotions. Et du coup, il y a des fois ce sentiment de, pour la partenaire ou le partenaire, c'est de dire, j'ai l'impression qu'il n'est pas empathique, j'ai l'impression qu'en fait, ça lui passe au-dessus, il pleure jamais, il y a ci et ça, il est froid. Et c'est vrai que de l'autre côté, l'homme dit, oui, effectivement, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis comme ça, quoi.
Ouais, alors moi c'est souvent des choses que j'entends, ça, tu vois, on me dit, Myriam, on ne changera pas, je suis comme ça, alors vraiment j'entends, et bien sûr qu'on ne change pas les gens. Par contre, moi souvent ma question c'est, est-ce que vous pensez que vous êtes encore enseignable ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous pouvez encore apprendre ? Moi je peux comprendre quelqu'un qui dit ne pas savoir communiquer, parce qu'on ne lui a jamais appris, ok, donc aujourd'hui, les faits sont là. On ne t'a pas appris, tu ne sais pas faire, mais est-ce que tu es encore enseignable? Est-ce que tu as envie d'apprendre?
Quand la personne répond, bah oui, justement, je suis ouvert, j'ai soif d'apprendre, etc. Bon, bah, en soi, c'est plus simple qu'effectivement une personne qui va dire, bah non, moi, je suis très bien comme ça, je n'ai pas envie de changer. Par contre, c'est ma partenaire ou mon partenaire qui veut que je change.
Oui, après, le très, très bien, il se peut hein, qu'il y ait des personnes qui soient très, très bien dans un mal-être que l'autre exprime, tu vois. Moi, souvent, je fais aussi référence à la bienveillance qu'on peut porter à l'autre. C'est-à-dire que, ok, toi, tu es peut-être bien, mais est-ce que tu entends que l'autre n'est pas bien? Tu as fait le choix quand même d'être quotidiennement avec quelqu'un, tu vois. Tu peux pas dire, ben, de manière très nombriliste, dire, moi, c'est ok, ça va de mon côté, et puis l'autre n'est pas bien, bon, ben, qui règle son problème, quoi. Il n'est pas bien dans cette relation de couple. C'est ça, moi, que je note. C'est-à-dire que cette relation de couple, comme je disais tout à l'heure, c'est une entité à part entière. On est deux à la co-construire. Tu as ta part à jouer. Tu as ta part là-dedans. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie d'y mettre?
Et c'est ça qui est dur, justement, des fois, à faire comprendre qu'elle a une part à jouer. Et des fois, c'est simplement, bah non, camper sur ses positions, je ne changerai pas, j'ai raison. Ou bah oui, elle n'est pas heureuse. Ou oui, il est en train de souffrir. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je suis bien comme ça. Je ne vais pas changer ou me sacrifier ou avoir moins de désir juste pour correspondre ou plus de désir juste pour correspondre à l'autre. Comment on navigue avec tout ça?
Comment on navigue? Comment si j'ai pas envie de me sacrifier? Eh ben déjà, on communique. Tu vois, moi, le sacrifice, c'est pas OK. Évidemment que c'est pas OK. On se sacrifie pas pour quelqu'un. Par contre, ça nous demande, dans une relation de couple, de nous adapter. La suradaptation, c'est pas possible. L'adaptation, c'est OK. L'adaptation, pour moi, c'est les compromis. Et qu'est-ce que j'entends de l'autre? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Mais au-delà de l'autre, tu vois, de son ou sa partenaire, moi, souvent, je leur dis, mais il y a vous deux, moi je ne travaille pas le vous deux. C'est-à-dire que à titre individuel, vous allez voir un thérapeute, un psychologue, des personnes qui peuvent vous accompagner dans un travail personnel. Moi, je suis là pour ressortir le meilleur de vous deux, mais prendre aussi en considération toutes vos vulnérabilités et vos fragilités et co-construire ce couple, donc cette entité-là. Et qu'est-ce que tous les deux-là, vous êtes prêts à mettre dans ce pot commun du couple pour le rendre le plus harmonieux possible, en fait, le meilleur qu'il soit. Donc, bien sûr que l'idée, elle n'est pas de se sacrifier, mais elle est peut-être aussi d'apprendre parfois à sortir de notre zone de confort, tu vois?
Ah, ça, je suis d'accord, ouais. Sortir de la zone de confort, et ce n'est pas évident. Il y en a pour certains où, en fait, ce n'est peut-être pas le bon moment. Ils reviendront peut-être aussi en thérapie, c'est des fois aussi de réaliser que, bah non, je ne suis pas prêt. Parce que souvent, moi, ce que je dis, c'est être motivé. Et être prêt, effectivement, à sortir de sa zone de confort, à faire des choses inconfortables. Parce que sinon, en fait, si tout était confortable, bah, en fait, il n'y aurait pas non plus d'évolution dans la relation. On est sans cesse en apprentissage, comme tu disais. Et du coup, donc, il y a la motivation. Et des fois, pour certaines personnes, c'est de réaliser aussi, finalement, bah, je n'ai pas forcément envie de changer ou je suis bien comme ça pour le moment. Et donc, bah, de revenir plus tard, si jamais aussi, il y a l'envie aussi d'évoluer. Parce que comme tu dis, finalement, si... on commence une thérapie et qu'il y en a un ou l'autre qui n'est pas motivé. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'en fait, bah, on n'avance pas puisque la personne ne veut pas avancer. Donc, des fois, et je reviens à cette question-là aussi, est-ce que des fois, le principe de la thérapie, c'est aussi de pouvoir mettre des limites dans le sens où bah, là, on ne peut pas faire un accompagnement. Et peut-être que tu peux nous dire aussi quelles peuvent être, pour toi en tout cas, en tant que thérapeute, les raisons qui t'amènent à dire bah, « là, je ne peux pas vous accompagner ». Et la question d'après, ça serait, est-ce que aussi le principe d'une thérapie, ça peut être aussi d'accompagner des gens dans la séparation? Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est, parce que souvent on se dit, bah, on va faire une thérapie pour éviter de se séparer, et il y a certains thérapeutes qui vont tout faire pour pas que le couple se sépare. Or, des fois, la séparation peut être le meilleur aussi de la thérapie. Donc, c'est deux questions. La première question, déjà, quelles peuvent être pour toi des raisons qui mettent une limite à ton accompagnement thérapeutique au sein des couples?
Alors, moi, il y en a une majeure qui est arrivée vraiment très peu de fois, mais elle est arrivée. C'est recevoir un couple où on va me dire, Myriam, moi, je n'ai aucun problème. Par contre, j'amène mon ou ma partenaire qui, je pense, a un problème. Je suis là pour lui ou pour elle. Et pour moi, tout est OK. Alors, moi, souvent, je leur dis, bah, en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que moi, je travaille un couple là. Je travaille le couple. Je ne travaille pas une personne en individuel. Et si c'est juste un travail individuel qu'il faut faire, et bah, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Donc, ça m'est arrivé une fois de dire, bon, bah là, en tout cas, moi, je ne me sens pas en capacité de répondre à ce besoin-là, puisque là, vous ne vous en faites pas vraiment au bon endroit. chez un thérapeute de couple, on vient travailler le couple en l'occurrence. Et puis, il peut m'arriver aussi de mettre fin à des thérapies qui sont déjà engagées. Quand je sens que c'est le moment qu'on s'arrête, en fait, il y a des couples qui s'attachent à cette thérapie, qui s'attachent, je pense, au thérapeute. Je pense aussi que ça les sécurise de se dire qu'ils vont voir le thérapeute une fois tous les mois et qu'on va être un peu là pour faire une espèce de médiation ou vérifier que tout aille bien. Et moi, parfois, sur des thérapies qui durent un petit peu et où je trouve en tout cas légitime de dire ben, on est bout, quoi, d'arrêter, de dire faut qu'on arrête, quoi. Et souvent, ils me disent mais s'il y a encore des problèmes, en fait, des problèmes dans le couple, on va en rencontrer tout le long de notre vie de couple. Moi, je leur dis aujourd'hui, vous avez une boîte à outils. Voilà, vous l'avez à côté de vous, c'est tous les outils que je vous ai transmis. Prenez le temps de les exploiter, prenez le temps de les expérimenter. Parfois, vous serez bon, parfois, vous serez moins bon. Et c'est OK, ça aussi. Et si à un moment donné, ça ne va pas pour X raisons, ma porte n'est pas fermée. Évidemment qu'on peut se revoir comme ça sur une fois et puis on s'arrête de nouveau. Mais ça peut m'arriver voilà, d'arrêter avec ce type de couple-là qui veulent pas lâcher. Ou alors les couples qui mettent rien en place. Rien en place. Donc là, on va outiller. Donc, ils ont soif d'outils. Donnez-nous des outils. Donc, je donne. Et puis, quand on fait un petit peu le point, OK, qu'est-ce qui a avancé ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rien. Est-ce que vous avez un petit peu communiqué? Ah ben non, on sait ici qu'on communique. Donc, là, moi, j'estime qu'en fait, on ne peut pas avancer. Il y a une heure de séance mensuelle et faire le point de tout ce qui n'a pas été. À chaque fois, on vient, on ramène les vieux dossiers, on ne met rien en place à côté. Et là, ça et pour tout le monde. Et effectivement, il y a peut-être une histoire de timing aussi.
Ouais. Et je reprends une citation que je vais traduire en français, qui est en fait, le thérapeute ne doit pas faire plus que ses clients ou ses patients. Donc, si le couple ne fait pas d'outils, ne met pas en place des choses, etc. Alors, c'est intéressant de comprendre des fois quels peuvent être les blocages, les appréhensions, de travailler là-dessus. Mais si on voit qu'il y a une sorte de pattern et que ça reste après, comme tu dis, des mois et des mois de consultation, bah, au bout d'un moment, en fait, c'est de mettre le couple au pied du mur et dire bon, là, franchement, c'est un peu d'acheter du temps un petit peu comme ça, de se dire qu'on fait des choses parce qu'on consulte, mais finalement, on ne met rien personnellement en place. Donc, il n'y a pas de motivation.
Oui, c'est exactement ça. Et puis, les questionner aussi, surtout, en disant, qu'est-ce qui fait qu'avec X consultations, des outils, etc., on soit tout le temps au point mort, quoi. On soit comme au démarrage, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et souvent, on est aussi surpris hein, des réponses qu'on peut avoir. Hein, le manque de temps, parfois, pas d'envie. Moi, je leur dis très souvent, je peux vous outiller tant que je veux. Si vous n'avez pas un tout petit peu d'énergie à mettre dans la thérapie et si vous n'avez pas envie d'absorber aussi un tout petit peu ce qu'on vous transmet, vous balancez de l'argent par les fenêtres. Moi, je perds en énergie et puis on n'avance pas, quoi.
Ouais. C'est intéressant ce que tu dis aussi, l'énergie, en termes pour les thérapeutes, finalement. Parce qu'effectivement, pour ce genre de couple, là, si on prend cet exemple-là, c'est vrai que ça draine l'énergie, vraiment, on ressort de la séance, on est à vide parce qu'on sent qu'en fait, le couple, il est vide aussi. Il ne met pas d'énergie, il ne met pas de choses dans sa relation. Et juste prendre de l'argent pour de l'argent, comme toi et moi, on est alignés là-dessus, ça ne sert à rien parce que notre énergie, elle est complètement basse. Et de mettre, en fait, de respecter ses limites aussi. On revient à ça, en fait, finalement, à se dire... et en plus, on peut leur faire une faveur. Enfin, on leur fait de toute façon une faveur en les mettant au pied du mur, en leur disant « Là, regardez !» peut-être que vous ne voulez pas voir cette vérité en face, mais là, il est important de voir qu'il n'y a rien qui est mis en place. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que je ne suis pas la bonne personne, peut-être que vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Enfin, il y a plein d'hypothèses, mais en tout cas, de nommer factuellement ce qui se passe. Quoi.
Oui, c'est très, très important.
Et du coup, donc, ma deuxième question qui était dans le long, est-ce que la thérapie, c'est aussi tout faire pour que... Bon, tu as déjà eu un élément de réponse, hein, mais pour que le couple reste ensemble ou est-ce que la thérapie, c'est aussi accompagner des fois des couples à la séparation?
C'est accompagner aussi des couples à la séparation. Ça fait partie de la thérapie, accompagner des personnes à la séparation. Et ça m'arrive fréquemment aussi. Moi, ça, tu vois, je peux avoir tous les outils que je veux. Souvent, je leur dis, moi, je ne suis pas outillée pour remplir votre cœur de sentiments pour le partenaire. Ça, je n'ai pas. Malheureusement, je n'ai pas. Ou heureusement, d'ailleurs. Donc, on accompagne. Enfin, moi, j'accompagne en tout cas aussi à la séparation pour vraiment que la séparation soit la plus, j'ai envie de dire, la plus sereine possible, la plus comprise possible aussi. Et de s'apaiser de ça, d'avoir vraiment fait le tour avec le thérapeute. Les questions, on se les a posées. On a eu quelques éléments. Les uns, les autres, et puis on part plutôt, j'ai envie de dire, tranquille, même si c'est jamais tranquille. Mais en tout cas, on part en ayant des éléments de compréhension qui permettent de ne pas être dans une espèce d'amertume, de rancune vis-à-vis de l'autre. Quoi.
Ouais. Et est-ce que par rapport à la séparation, est-ce que c'est le couple qui amène ce sujet-là ou est-ce que c'est la thérapeute qui dit bah là, écoutez, c'est le moment de se séparer?
Moi, très souvent, ça a été le couple qui a amené. Très souvent, ça a été le couple parce que dans ma façon de travailler, et d'ailleurs, je le sais très très vite parce que je rencontre la première fois le couple qui sont tous les deux ensemble. C'est vraiment une prise de contact pour moi. C'est là où je leur explique un petit peu ma façon de travailler, les outils avec lesquels je travaille, comment se passe la thérapie avec moi. Et je leur demande aussi ce qu'ils viennent chercher pour voir si effectivement on s'aligne ou pas. Déjà, dans un premier temps, c'est aussi un moment où je leur dis, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis ensemble. Voilà, parce que parfois l'alchimie, Camille, elle est là, elle n'est pas là, on ne sait pas. Hein, et puis c'est comme ça. Et d'ailleurs, si l'alchimie n'est pas là, souvent je leur dis, si vous avez besoin, je vous donne des coordonnées. Ne restez pas sans personne. Derrière, je les vois en individuel, une fois, chacun, pour avoir un petit peu leur propre lecture de ce qui se passe dans cette relation de couple et un petit peu avoir des éléments sur le passif. Ils ont vu les relations amoureuses, affectives ou sexuelles, conséquences sexuelles qu'ils ont pu avoir, comment ils se sont construits, le schéma familial. Alors, c'est très rapide. Hein, en une heure, il faut être très succinct dans ce qu'ils vivent. Et c'est souvent là, dans l'entretien individuel, que j'apprends. Eh bien, moi, je ne viens pas pour réparer quelque chose dans ma gamme. Moi, je viens pour m'aider à me séparer. Je viens parce que j'ai un amant, j'ai une maîtresse. Donc, c'est là, en fait, on a des éléments de réponse. Mais c'est très important pour moi de leur rendre aussi ce qui leur appartient. C'est-à-dire qu'il y a une confidence qui se fait pendant un entretien individuel, mais ce n'est pas à moi de porter cette parole-là. Ce n'est pas à moi d'amener ce genre de détails quand on va se revoir dans ce que j'appelle moi le retour de couple. Et là, moi, ma façon de travailler, c'est surtout de les amener à réfléchir comment aborder la chose, comment ils vont pouvoir se réapproprier ce qui leur appartient là, et puis comment moi, je peux être accompagnante
et bonne. Pour que les choses puissent se dire tranquillement et comme tu dis, en fait, quand il y a des choses confidentielles, des secrets aussi qui sont révélés en séance individuelle, c'est effectivement pas à la thérapeute ou au thérapeute de révéler ça en séance en couple, mais c'est bien du coup au couple, enfin à la personne d'amener ça, et donc c'est aussi ça l'accompagnement, parce qu'en fait tu es là, comme tu disais, pour le bien du couple, donc dès qu'il y a des secrets et surtout des choses comme des tromperies ou j'ai plus envie de m'investir dans le couple, bah la relation doit le savoir finalement.
Eh oui. La relation doit le savoir, ou même sexuellement, hein, quand on va vous expliquer qu'il y a eu un peu de forcing, que c'est créé des blocages, parce que ça n'a pas pu être dit en couple. Voilà, tout ça, c'est important que la personne voilà, trouve les bons mots pour l'amener. De nouveau, se sente légitime déjà de l'amener, parce que moi, j'insiste sur ça. Vous êtes légitime, ça vous appartient, et qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avancer tout ça. Et moi, comment je peux être, voilà, comme je disais, soutenante là-dedans et accompagner aussi la parole. Être transmise et compris.
Et compris, et entendu et compris. Et du coup, ça fait une belle transition aussi sur les red flags, en fait, les signaux qui montrent que le couple n'est pas au mieux de sa forme, justement. Est-ce que tu as des indices, des indicateurs, des signaux qui te font dire que là, le couple, ouais, il n'est pas au top du top, quoi?
Il peut y avoir des signaux au niveau de la posture déjà pour les cabinets. Je vois hein, quand les personnes ne se regardent pas du tout, quand elles sont très éloignées, quand elles s'adressent qu'à moi, alors qu'elles parlent du ou de la partenaire et que c'est moi qu'on regarde. J'ai la sensation d'être moi le partenaire ou moi la partenaire. Donc moi, je guide, ok. Là, c'est à elle que vous vous adressez ou à qui vous vous adressez. Les red flags pour moi, c'est à partir du moment où la personne commence à me dire je fais pour, je me sens pas libre de. J'ai pas l'espace pour, il n'y a plus du tout de communication, je me sens pas entendue, pas écoutée, où on sent qu'il y a une espèce de toxicité comme ça, qui est sous-jacente, une espèce d'emprise comme ça sur l'autre, où pour moi, ça, c'est des vrais red flags et c'est vraiment, j'essaye de leur permettre d'en prendre conscience, de dire voilà, moi, quand je ressens quelque chose, d'en penser, voilà, je me rends compte que là, vous êtes adressé à moi quasiment tout le long. Du tout regarder alors que c'est elle dont vous parlez, quand ils sont aussi beaucoup dans le tu qui tue hein, de notre ami Jacques Salomé, et qui vont mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, ou voilà, dans la critique et pas du tout dans des choses où ils valorisent la place de ce qu'ils apportent, et ce pourquoi ils sont en couple, tu vois. Ça peut faire partie un petit peu des red flags. Bien que pour moi, les red flags, ils peuvent être red flags aujourd'hui et tout à fait, voilà, évoluer. Et
ça peut être travaillé.
Et voilà, d'être travaillé et de complètement disparaître de la relation.
Parce qu'on a envie de changer et de plus être dans justement ces signaux-là. Et du coup, pour être dans le pratico-pratique aussi de la thérapie de couple, combien de séances ça prend pour faire tout ça? Quelle est la fréquence pour les personnes qui se demandent justement, qui sont en hésitation de consulter? Qu'est-ce que tu leur dirais?
C'est très, très difficile en fait de donner une fréquence parce que moi, je me rends compte qu'il y a des couples... Alors nous, initialement, enfin moi en tout cas, je suis formée à ce qu'on appelle de la thérapie brève. Donc, je ne suis pas censée avoir les personnes accompagnées, les personnes au cabinet. Plus d'un an, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Pour autant, eh ben, il va y avoir une minorité de couples que je vais accompagner, même j'ai même fait 2 ans, hein, parce qu'ils arrivent et puis qu'il y en a certains qui ont 20 ans de vie commune et qu'on va partir sur un manque de communication, puis derrière on va parler de sexualité, et puis après ça va être les enfants, et puis finalement chaque séance, eh ben, il faut, j'ai envie de dire, traiter eh ben, 20 ans, quoi. 20 ans. Et puis d'autres personnes qui arrivent même parfois avec des couples tout récents et qui ont aussi beaucoup à traiter. Moi, la thérapie brève, on est normalement sur une moyenne de 7-8 séances pour que les choses aillent déjà un peu mieux, d'accord ? Y a des couples, moi, qui m'ont surpris, en fait, vraiment, où je me suis dit « Ah, tiens, ça va être long, il y a beaucoup de choses. » Alors ça, c'est mon dialogue interne, hein, évidemment. Hein. Et puis finalement, ils mettent une énergie de fou, il y a une prise de conscience, il y en a qui reviennent en séance en me disant « Mais oh, la séance précédente, Myriam, j'ai tellement pris conscience de certaines choses, elle m'a boostée, j'ai travaillé ça entre-temps sur moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et on avance à une vitesse que moi-même, j'aurais même pas espéré à la première rencontre. Et puis, ça va très vite. 4-5 séances, c'est fini. Et puis, j'ai d'autres couples où je me dis « Ah, ça va peut-être aller vite. » Et puis, on sent beaucoup de résistance et ça prend plus de temps et puis on...
C'est important de le dire, effectivement, que ça prend, c'est pas en 2-3 séances, parce que des fois, des personnes disent « Ah oui, moi, j'ai déjà consulté des thérapeutes de couple. Ah oui, alors combien de séances ? Oh, bah, 1, 2, 3, puis voilà, ça n'a pas fonctionné. » Non, en fait, c'est qu'il faut beaucoup plus de séances que ça, et puis il faut un investissement, comme tu disais, et la motivation, finalement, parce que c'est vrai que en fait, dès qu'on accompagne des personnes qui sont motivées, peu importe, il y a toujours des changements qui se font, même peut-être qui avancent progressivement pas à pas, mais c'est beau, comme tu dis, il y a des couples qui nous surprennent vraiment. Et pour les personnes qui disent, et je sais que tu avais fait un post là-dessus, et j'avais réagi aussi dessus en amont, sur, bah, en fait, une thérapie, ça coûte cher. Donc, pourquoi faire une thérapie ? Ça coûte trop cher.
Alors moi, ben, je vais répondre quelque chose que toi-même tu réponds déjà, Camille. Hein. Donc, c'est tes mots à toi, c'est-à-dire vous verrez combien coûte le divorce. Hein, ça, c'est tes mots. Moi, souvent, oui, ça coûte cher une thérapie. Ça peut coûter cher, du moins, une thérapie. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'effectivement, on continue de se détruire, on ne s'outille pas ? Et puis, ben, effectivement, comme tu le dis très justement, une séparation, ça coûte cher, mais ça coûte cher pas que financièrement, bon sang, parfois quand il y a des séparations, alors j'ai envie de dire déjà psychiquement, psychologiquement, pour la personne elle-même, et puis ça coûte cher parfois aux enfants, et ça coûte cher pour beaucoup de monde, quoi, qu'on ne peut pas le mesurer financièrement, mais bon sang, c'est bien plus cher qu'une séance qu'on va payer physiquement, hein, tu vois, avec de l'argent, et puis on met de l'argent dans beaucoup de choses aujourd'hui, et c'est comme si que notre santé mentale, elle n'avait pas de place pour qu'on puisse investir. Alors que pour moi, je passe ma santé mentale en priorité et c'est ce qui me permettra d'être bien dans tout le reste. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Puis moi, j'ai surtout envie de dire qu'au-delà de l'argent, vraiment, tu vois, enfin, c'est même pas l'aspect pécunier pour moi. C'est tout ce que ça peut coûter derrière de ne pas avoir compris certaines choses. Enfin, je trouve ça dommage. Et puis, je trouve surtout dommage qu'on est capable aujourd'hui de consommer 1000 choses. Et de ne pas consommer de la santé mentale, quoi.
Ouais. Ouais, comme tu dis, prendre soin de soi, prendre soin de son couple, bah, ça a un coût, mais comme plein d'autres choses qu'on est prêt à payer aujourd'hui et qui n'a peut-être pas le même impact finalement sur du long terme. Tu vois, peut-être se dire faire du shopping, ça a peut-être un impact sur du court terme, mais du long terme, bof, alors que prendre soin de soi et de sa relation de couple, l'impact, il est vraiment sur du long terme. Donc, ok, ça, c'était important de le dire aussi. Donc, on a parlé un petit peu de la fréquence, de combien de temps ça peut durer, du motif de consultation, de certains signaux. Moi, je voulais revenir aussi maintenant, si on aborde un peu plus les concepts et les croyances avec lesquelles les couples arrivent. Et tu disais qu'en cabinet, tu en as fait d'ailleurs un post, qu'il y a cette notion de comptabilité en termes de sexualité, que les couples utilisent en fait comme s'ils étaient des comptables, ils comptent en fait leur rapport intime. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus cette notion et quel est l'impact en fait finalement de compter?
Mais alors, cette notion, très souvent je la retrouve en sexothérapie, hein, où la personne va dire, ben voilà, je viens parce que mon ou ma partenaire a peu de désir, on est à une fois par mois, deux fois par mois, une fois par trimestre, enfin bon, il donne un chiffre. Bon, très bien, quelque part, moi, ça me permet de me repérer aussi, très honnêtement. Et moi, parfois même, je leur demande et je leur dis, je ne suis pas là pour comptabiliser, je veux avoir un ordre d'idée. Parce qu'entre, on fait l'amour trois fois par semaine, ce n'est pas assez, et puis on fait l'amour une fois par trimestre, ce n'est pas assez, ce n'est pas la même chose pour moi. Mais bon, et en fait, je me rends compte qu'on est beaucoup, et je dis on, parce que moi aussi, en fait, longtemps que j'ai été là-dedans.
Je peux être encore là-dedans.
Mais oui, tu vois, à comptabiliser, à se dire, mais oh, ce mois-ci, on a fait l'amour, mais que deux fois. Mais oh mon Dieu, il y a un problème. Et parce qu'on nous a appris quoi, en fait? On nous a transmis, hein, ces injonctions sociétales, ce qu'on nous a transmis dans la société, c'est le sexe, c'est 80% du couple. Moi, c'est ce que j'ai entendu très tôt, très jeune, ça. Ah, 80%, 90% du couple. Mais mince, quoi. Et tu vois, on est enfermé là-dedans, donc on va se dire quoi? On va se dire, bon, ben là, je suis anormale parce que et j'ai tant de relations par mois, etc. Et c'est drôle parce que tu parles du poste que j'avais fait où j'avais regardé une étude justement IFOP où ils avaient interrogé, alors je ne sais plus exactement le nombre de couples, et puis je me disais, ok, très bien, ils ont interrogé tant de couples, et puis on était sur deux fois et demi, je crois, par semaine, deux ou deux fois et demi par semaine. Et en lisant l'étude, je me suis dit, mais en fait, ils ont interrogé qui? Qui ils ont interrogé? Est-ce qu'ils ont interrogé des jeunes couples qui ont quelques mois de relation de couple et qui, effectivement, peuvent avoir une sexualité très, très, très fréquente parce que c'est nouveau? Est-ce qu'ils ont interrogé des couples qui ont peut-être 20 ans, 30 ans de vie commune et qui ont peut-être une sexualité un petit peu moindre? Est-ce qu'ils ont interrogé des femmes en postpartum, des hommes aux troubles sexuels? Qui est-ce qu'ils ont interrogé, en fait? Et ça, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc, pour moi, déjà, c'est faux. C'est faussé, cette étude. Elle n'est pas OK, tu vois. Et puis, je me dis, maintenant, on va transmettre ça à des personnes qui vont se dire, mais waouh, je suis à mes deux fois et demi à peu près, donc mon couple va bien. Ou, à contrario, oh mon Dieu, j'ai un problème. Je suis à moins de deux fois, quoi. Et on nous transmet ça. J'ai été là-dedans. Ça, je m'en suis libérée aujourd'hui en me disant, mais OK, Myriam, t'as fait l'amour ce mois-ci peut-être deux fois, mais parce que... t'étais peut-être naze, t'as été submergée de l'eau, t'as fait d'autres choses. N'empêche que ton couple, il ne tient pas qu'à ça, qu'aujourd'hui, on traverse des choses qui ont autant d'importance, voire peut-être parfois plus que la sexualité, tu vois, d'avoir quelqu'un de présent, de soutenant, de contenant, à l'écoute, de communicant. Pour moi, déjà, ça a encore plus de place, même si, effectivement, la sexualité a toute son importance pour moi dans la relation de couple. Et puis, on s'enferme là-dedans et les gens arrivent avec. Moi, souvent, je leur dis, mais la fréquence, elle n'importe pas, en fait. Qu'est-ce qui est le mieux? De faire l'amour, allez, t'es quatre fois par semaine parce qu'il faut faire quatre fois par semaine et puis que ce soit simplement, en gros, pour la forme, ou bien d'avoir peut-être un rapport sexuel par quinzaine et que ce soit exclusif, la connexion, elle soit tellement forte, tellement chouette. Qu'est-ce qui est le mieux? Et moi, souvent, je leur dis, moi, ce qui me fait rêver, c'est peut-être une fois par quinzaine et que ce soit une connexion fou et exclusif, que trois fois par semaine, parce qu'il faut faire l'amour et que c'est comme ça que ça fonctionne, un couple qui est heureux, quoi.
Bah oui, parce que la fréquence ne veut pas dire la qualité, quoi. Il y a des couples, des fois, qui arrivent et qui disent « Ah bah nous, notre couple va bien, effectivement, parce qu'on le fait trois fois par semaine. » Déjà, moi, si je me réfère à mon expérience personnelle, je suis « trois fois, je suis en sueur déjà, moi, trois fois par semaine, je suis là, oulala, c'est trop pour moi. » Mais ces statistiques, comme tu dis, à qui ils ont demandé? Parce que honnêtement, c'est pas ce qu'on voit en séance. Alors on pourrait se dire, bah peut-être parce que justement ces couples vont mal, mais non, je pense qu'ils sont très représentatifs justement de quand on cherche une normalité, même s'il y en a pas. Mais je pense qu'ils correspondent bien plus à cette moyenne qui est très très loin du 2,5 par semaine. Je sais pas où ils vont trouver ces couples, vraiment. Je sais pas.
Mais Puis d'ailleurs, il y avait, alors j'ai plus son nom, hein, mais il y avait un sexologue clinicien qui expliquait, il disait, mais en fait toutes ces expertises-là, en plus, elles sont hyper fausses parce qu'on a tous tendance à aller vers la hausse quand on répond à ces questionnaires-là. Bizarrement, les hommes ont un sexe de 20 cm dans ces expertises-là, tu vois, alors que c'est complètement faux. Et je pense qu'on a tendance à monter. Si moi, j'étais peut-être à deux fois semaine, ou un peu plus, je me dirais, bon, allez, je note 3 parce que c'est entre les deux, je vais noter 3. Tu vois, hop, je vais aller vers le haut, quoi. Et c'est pas représentatif, pas du tout, du tout. Souvent, moi, je leur dis la norme, la bonne norme, c'est la vôtre, en fait. Si elle vous met pas en souffrance, c'est la vôtre. Point. Et que ce soit, tu sais, j'ai un couple que j'ai reçu il y a 2-3 semaines, là, et puis elle disait, je viens, ils ont 20 ans de vie commune. Et elle me dit, je viens parce que je voudrais vibrer un peu plus, mettre un peu de piment. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, tout de suite, je me suis dit, elle me parle de sexualité, tu vois. Et donc, je leur dis, puis du coup, l'intimité, comment ça se passe? Parce que j'avais fait, moi, le lien, comme ça. Puis elle me dit, mais l'intimité, Myriam, on n'en a plus. Puis, ah bon? Elle me dit, mais ça fait 10 ans qu'on ne fait plus l'amour avec toi. D'accord, lui, pareil, lui, oui, c'est ça, 10 ans. Ok, tout est ok pour vous, oui, tout est ok. En fait, on vient vibrer, on veut vibrer en allant au théâtre, au truc, en voyageant. Et c'est complètement ok pour nous que ça ne soit plus. Ça ne fasse plus partie de notre couple, en fait. On a énormément de tendresse, mais on ne fait plus de sexe. Et tu vois, je me dis, oui, il y en a, et oui, c'est OK, en fait. C'est OK. Et on peut être heureux sans sexe, comme heureux avec le sexe, évidemment. Mais,
non, ce genre de couple, moi, à chaque fois, je suis là, je suis en extase, j'ai les yeux qui pétillent, je suis là, on voit qu'ils sont complètement alignés, qu'ils sont heureux. Je préfère largement des couples comme ça que des couples qui vont se forcer à avoir une sexualité pour dire qu'on rentre dans ces cases-là et qu'on les voit dépérir. Non, quoi. Donc, c'est trouver ce qui vous fait vibrer de la manière dont vous le souhaitez. Comme tu disais, la propre norme, c'est la vôtre. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Et alors, pour les couples qui aiment la sexualité, qui ont envie d'être dans des rapports intimes, mais qui se plaignent d'une certaine monotomie sexuelle. Tu vois, de se dire, bah, c'est toujours moi qui fais le pas, ou alors quand lui ou elle fait le pas. Généralement, quand lui fait le pas, bah, c'est toujours la même chose, je sais d'avance ce qu'il va faire. Et comme je sais d'avance, bah, en fait, ça ne m'excite même pas. Je suis là, oui, ok, là, il m'a embrassé. Puis là, on va se mettre dans cette position. Puis là, il va aller mettre ce lubrifiant à ce moment-là. Puis là, il va me caresser de cette manière-là pendant autant de minutes ou de secondes. Et puis là, là. Tu vois, le scénario, il est déjà écrit. Et du coup, bah, quand c'est écrit, ça peut atténuer effectivement cette sensation de surprise ou cette sensation d'éveiller justement le désir. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à cette monotomie sexuelle?
Moi, j'ai envie de dire que déjà, elle touche tout le monde, elle peut toucher tout le monde. Parce que ça fait partie aussi d'une espèce de routine dans laquelle on est bien. Parfois, on est embarqué dans un quotidien et puis on va avoir tendance à aller là où on sait qu'il faut qu'on aille parce que ça fait du bien à l'autre, en fait. Tu vois, c'est légitime. Moi, je le respecte au couple. Vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 3 ans de couple. Vous vous connaissez très bien, évidemment. Et puis, vous avez en plus envie de faire bien. Et ben vous allez aller là où vous savez que en toquant chez l'autre, ça ouvre la porte, quoi. Donc, c'est légitime. Sauf que...
Oui, j'allais dire oui. Et en même temps, sauf que, peut-être c'est ce que tu allais dire, mais sauf que même si on sait ce que l'autre aime, ça peut changer aussi un peu du jour à l'autre. Ou même peut-être la personne n'a pas envie de cette caresse-là aujourd'hui, peut-être d'une autre caresse.
Voilà, c'est ça. Sauf que, effectivement, en fait, ça nous embarque dans quelque chose qui ne permet plus pour moi d'éveiller le désir, l'envie. Souvent, je leur explique, l'être humain de nature, il est curieux. C'est l'être humain, c'est comme ça. On peut faire l'expérience. Parfois, moi, j'observe les bébés dans les caddies au magasin où on passe à côté, puis hop, ils lèvent la tête et puis ils nous regardent. Bon, eux, ils n'ont pas de filtre. C'est des tout petits. Nous, on a des filtres. Donc, évidemment que dans la rue, on est un peu plus vigilant. Mais si je sais d'avance, ce que souvent, moi, je leur fais référence avec la restauration. Je leur dis, mais en fait, ça fait 6 ans, 10 ans, 20 ans que vous allez dans le même resto, que vous mangez le même plat, lasagne ou paella, tu vois, le vrai missionnaire, quoi. Bon, même si le plat, il est très bon, au bout d'un moment, moi, je vais quand même me dire, bon, bah, je connais le goût, je sais comment le saveur m'accoste.
Plus la même saveur.
Ça plus la même saveur, en fait. Et il y a ça, il y a le fait que j'ai peut-être envie de découvrir d'autres choses, et comme tu dis, il y a peut-être des moments où j'ai pas envie d'avoir cette approche-là, où j'ai peut-être envie, tu vois, ne serait-ce que la façon de faire du sexe, quand on va faire du sexe parfois très tendrement ou parfois de manière un peu plus animale, peut-être que déjà du jour au lendemain, je change les positions. Tu vois, ne serait-ce que dans notre cycle menstruel pour nous les femmes, il y a une position qui va être parfaite le lundi, le mercredi, pour X raisons, en fonction de mon cycle, elle va être hyper douloureuse, par exemple, tu vois, où ça ne sera pas du tout OK qu'il fasse fort à ce moment-là, alors que lundi, on aurait pu lui dire, vas-y, vas-y, soit dans du fort, c'est OK, tu vois. Et ça demande, du coup, et de communiquer, et puis, pour avoir vraiment un esprit un peu plus large, peut-être d'être curieux aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qu'on aurait envie de découvrir? Est-ce que toi, tu as aussi envie? Comment on peut le découvrir? Quels sont nos fantasmes? Comment on peut développer un petit peu nos compétences comme ça, sexuelles, tu vois? Comment on peut faire évoluer notre sexualité? On fait tout évoluer dans la vie. On prend de la maturité sur tout. Je leur dis souvent, voyez, au travail, vous évoluez. En tant que parent, on évolue, on grandit, on prend de la maturité. On évolue nous-mêmes, avec nos amis. Et puis souvent, les gens, la sexualité, ne pensent pas à la faire. Non, elle aussi, elle évolue. On ne fait pas l'amour à 20 ans comme à 40 et encore moins comme à 60.
Et j'ai envie de dire, je ne sais pas si tu vois ce parallèle-là, que justement, en fait, les personnes qui sont déjà dans cette curiosité, dans cet éveil, vont plus être les personnes qui vont justement demander de la variété dans la sexualité. Et les personnes qui vont proposer toujours la même chose sont les mêmes personnes qui vont toujours être rassurées par le même restaurant, le même plat, et qui sont peut-être moins dans cette curiosité, non? Je ne sais pas si tu trouves ça, toi.
Oui, qui sont moins dans cette curiosité, mais qui sont aussi, pour beaucoup, je trouve, dans beaucoup de pensées limitantes. Tu vois? Les personnes qui ne vont pas avoir envie de développer, les personnes qui vont pratiquer toujours les mêmes choses sans du coup s'ouvrir à d'autres pratiques. Souvent, quand je creuse un petit peu, et je leur dis, OK, soit on n'aime pas parce qu'on n'aime pas, clairement, on a essayé, puis c'est complètement OK, soit on n'aime pas, et tiens, pour quelle raison? Et souvent, c'est des fausses croyances. Souvent, moi, je suis confrontée à des pensées différentes. Quand on me dit, Myriam, je ne pratique pas la fellation, par exemple, le sexe oral, parce que c'est une pratique où l'homme me domine. Mais moi, je ne peux pas entendre ça, tu vois? Alors, bien sûr que le porno, il nous montre l'homme, finalement, il domine la nana, qui est complètement soumise à l'homme, etc. Mais souvent, moi, je leur dis, écoutez, on va essayer de déconstruire ça et de le voir autrement. Tu domines complètement ton partenaire. Tu offres du sexe oral. C'est toi qui as ton plaisir, j'ai envie de dire, j'allais dire en dans la bouche, mais oui, dans la bouche, dans tes mains, voilà. C'est toi qui décides de t'arrêter quand tu as envie. C'est toi qui sais ce que tu fais et qui lui donne ça, mais de la même manière, pour nous quand on reçoit, hein, et à aucun moment, tu es dominé à ce moment-là. Tu domines complètement le plaisir de l'autre. Et tu vois, de déconstruire comme ça, de déconstruire en fait tout ce qu'on peut entendre et qui va permettre d'ouvrir comme l'utilisation de, je sais pas moi, de cosmétiques, de jouets, de lingerie, certaines positions, sans même aller dans trop affriolant, tu vois. Mais où on va dire, mais non, ça, la levrette, c'est une position des chiens, ça, tu vois. Alors, c'est une position aussi où il y a du plaisir en profondeur qui est différente, qui donne d'autres sensations, enfin.
Ouais.
Donc, c'est tout le travail, je pense, que tu fais aussi, évidemment, mais qu'on fait au cabinet, hein, de déconstruire un petit peu tout ça et puis de transmettre autre chose. Et après, effectivement, la personne est libre, hein, de l'entendre ou pas, de faire cheminer ou pas.
Bah oui, ouais, ouais. Comme tu dis, tu proposes les outils adaptés à eux, leurs envies, à ce qu'ils ont, ouais, là où ils veulent, là où, ce qu'ils ont envie d'atteindre, justement, en thérapie. Et du coup, est-ce que tu aurais des outils ou un outil qui, pour toi, fonctionne le mieux, hein, vraiment, là, pour toi, qui fonctionne le mieux pour les couples que tu accompagnes?
Alors, si on reprend la problématique principale, hein, qui était autour de la communication, donc c'est pourquoi ils arrivent au cabinet, je peux en donner deux.
Allez,
je me permets d'en donner deux.
Cadeau pour les personnes qui nous écoutent.
Là, c'est pour vous. Hein. C'est cadeau. Hein. Alors, vraiment, c'est le premier, c'est de les mettre en lien avec leurs besoins. Ça, c'est indispensable pour moi. On ne peut pas communiquer et être bien, être bon dans une communication si on n'est pas en phase avec de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Ça, c'est un premier outil que je propose. Et moi, il se traduit par l'envoi d'un mail avec vraiment tout un écriteau. Et puis, plusieurs besoins que je cite, je crois qu'il y en a 12 ou 13, et je leur demande de m'en trouver trois vraiment essentiels pour eux dans une relation de couple et de me dire de quelle manière ça peut se traduire dans la relation. Alors, c'est très compliqué. Alors, peut-être que tu vois, c'est compliqué. Je te donne un exemple tout bête. On est toutes les deux professionnelles et puis Camille, tu vas me dire, moi, mon premier besoin en tant que professionnelle, c'est d'être respectée. Et moi, je vais dire, ah bah oui, Camille, moi aussi, c'est mon premier besoin. Ah bah, on est en accord sur ce besoin-là. Et en fait, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que quand je leur demande de développer ça, eh ben, peut-être que toi, tu vas me dire, Myriam, moi, je me sens respectée quand on me vouvoie, par exemple, en thérapie. Alors que moi, je vais peut-être dire, alors moi, pas du tout. On peut me tutoyer, on peut me vouvoyer, je me sens respectée. Moi, je vais me sentir respectée quand on me prévient d'un retard, d'une annulation. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est un petit peu sous-jacent à un premier besoin. De quelle manière ça se traduit? Comment tu te sens aimé comment tu te sens respecté, entendu et compris?
Qu'est-ce que le mot respecté veut dire pour l'un et pour l'autre? Parce qu'effectivement, ça peut être le même mot. On peut se dire que c'est la même définition, mais non, en fait, chacun va mettre sa définition selon ses valeurs, selon son bagage. Et comme tu dis, par exemple, là, pour le respect, on peut être 5 personnes pour qui c'est important le respect et on va te donner 5 définitions différentes, tu vois.
Et 5 manières de sentir respecté différentes, tout à fait. Et sinon, un outil qui est beaucoup apprécié au cabinet, c'est ce que j'appelle un petit peu l'apéro comme sandwich. Accroche-toi.
Alors, j'ai mis le teasing avant et j'ai bien adoré. L'apéro comme je vais y arriver, comme communication.
Oui, moi j'ai l'apéro comme pour faire boire, sinon c'est trop long. Hein. Donc l'apéro, voilà, la communication sandwich, c'est une communication qui va se faire en 3 temps. Alors, dans un premier temps, j'invite vraiment les couples à pointer, à mettre en évidence tout ce que l'autre fait qui nous fait du bien. Sur la dernière semaine, c'est souvent une communication que je préconise une fois par semaine, de leur dire, voilà, vous prenez le temps, vous faites un petit apéro, c'est votre moment à vous deux. Et dans un premier temps, vous mettez en avant tout ce que l'autre a fait. Il ne suffit pas de dire, ah ben là, t'es rentré plutôt du boulot, c'était cool, quoi. Non, ça ne suffit pas pour moi. C'est plutôt, qu'est-ce que ça t'a fait ? Le fait que tu rentres plutôt du boulot, eh ben, sache qu'on a pu plus profiter, ou je me suis sentie plus importante pour toi, ou ça nous a permis, tu vois, de coucher les enfants ensemble. Peu importe la raison, mais en tout cas, de pouvoir déterminer ce que ça nous fait à nous. Plutôt que juste bravo, c'est bien, t'es rentré plus tôt, et l'autre, il ne comprend toujours pas pourquoi il faut qu'il rentre plus tôt le soir. Voilà. Au milieu de cette communication-là, les choses qui vont un peu moins bien. Et souvent, j'invite les personnes à être à faire très attention à la manière dont je communique les choses. Si je dis, bah, cette semaine, franchement, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est pas OK, ça me va pas du tout, etc. Forcément, le prochain apéro-com, l'autre, il revient pas. Hein. Il revient pas. Hein. Il a le sport à faire, il a pas envie de faire l'apéro-com.
Ben non, personne n'a envie de s'en prendre plein la tête.
Ben non, c'est pas, et puis c'est pas un box de ring, quoi. Ben, on n'est pas sur un ring de boxe, quoi. On est là surtout pour se dire les choses et pour nous faire grandir. Surtout le couple. Et souvent, je préconise de parler plutôt soit en jeu. Voilà, là, j'estime que, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ou alors de dire on. Moi, souvent, avec mon partenaire, j'emploie le on. En disant, hey, tu trouves pas que sur ça, on est encore moyen, qu'il faudrait qu'on fasse encore des efforts, t'en penses quoi? Et en fait, c'est vraiment une stratégie pour lui dire, tu vois, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est on, c'est le couple, c'est nous. Et comment tous les deux, on peut mettre quelque chose en place pour que ça aille mieux? Donc, le milieu de la communication avec tous les aspects qui vont peut-être un petit peu moins bien. Et puis, on termine un petit peu cette communication par une petite projection de couple, un petit moment qu'on a envie de passer en couple à deux. Et souvent, je leur dis, ça peut être un tout petit truc, je ne sais pas, ça fait 6 mois qu'on s'est pas rejoint après le boulot pour prendre une petite bière dans tel bar qu'on adore. Bah tiens, semaine prochaine, on se rejoint. Ça peut être une petite douche à deux parce que ça fait très longtemps. Ça peut être cuisiner un plat, aller faire une marche, peu importe. Ce qui manque dans une majorité des couples au cabinet qui arrivent, c'est la communication et le temps à deux. Donc, je me dis, ça permet, et cet outil-là, de travailler la communication, ça permet de mettre le doigt aussi sur ce qui va moins bien, et ça permet de passer du temps à deux. Et normalement, on n'est déjà pas trop mal sur ce premier outil.
Ah bah, surtout si on le fait chaque semaine, si chaque couple le fait chaque semaine, c'est vraiment génial, quoi. Ça, c'est vrai que je le recommande plus. Alors, moi, je le mets plus à une fois par mois. Parce que c'est ça va être ça aussi ma question, parce que les couples peuvent être motivés, mais il y a un moment où en fait ils lâchent un petit peu et je me dis que des fois une fois par semaine c'est trop leur demander. Alors bien sûr après tu peux te dire bah, quelle valeur tu mets au niveau de ton couple, mais souvent pour commencer en tout cas quand ils n'ont pas eu cette habitude là, je dis une fois par mois, et ensuite une fois que c'est bien mis installé, on peut ajuster et mettre même à une fois par semaine. Mais vraiment, si tout le monde fait une fois par semaine, c'est royal, quoi. Alors là, que demander de plus, quoi?
Mais le fait, moi, dans le cadre de la thérapie, j'essaye hein, une fois par semaine. Après, évidemment, quand ils arrivent et qu'ils disent bah, « on l'a fait une fois par quinzaine », une fois par mois, c'est rare. Ils s'y tiennent, en fait. Ils essayent de s'y tenir quand même. Hein. Mais quand ils arrivent même avec une fois par quinzaine, pour moi, c'est OK parce que ça leur permet, surtout, je leur dis, ça nous permet d'avancer le travail. On ne peut pas attendre de voir le thérapeute une fois dans le mois pour dire, bon, bah, c'est là maintenant qu'on va communiquer notre couple, quoi. Et de pointer, je trouve qu'une fois par semaine, réussir à se donner un peu de gratitude dans le couple, tu vois, même si c'est 30 minutes, punaise, c'est important pour nous. C'est important de se dire, là, on couche les enfants plus tôt, et puis on va manger tous les deux, et puis on va quand même se dire les choses. Parce qu'on est très bon hein, pour dire tout ce qui ne va pas.
Non, et reconnaître en plus la gratitude, ça permet ce lien de connexion et de reconnaître, de regarder l'autre et que vraiment l'autre se sente vu, reconnu. Et par contre, gratitude, ça même, je propose au couple de le faire même chaque soir, tu vois, avant d'aller se coucher, ou alors le matin, mais ça presque au quotidien, tu vois. Et ça apporte vraiment autre chose aussi dans la relation de couple, surtout pour les personnes qui se disent, mais moi, j'ai l'impression d'être pas reconnue, d'être pas entendue, je ne sais pas ce qu'on pense de moi, et ça fait du bien.
Ouais, la gratitude. Et puis ces moments-là, c'est des moments aussi de proximité, mine de rien. Des moments où on va communiquer, c'est des moments aussi où on va pouvoir un petit peu se rapprocher par les paroles, peut-être par du tactile. Et ça aussi, c'est important. Pour moi, c'est très important, ça. Tu vois, de leur permettre aussi la petite projection de couple, le petit temps d'activité à deux. Pour moi, c'est vraiment leur permettre d'avoir des moments légers où ils se retrouvent, en fait. Parce que ça nous manque cruellement et qu'on est pris dans notre quotidien. Et si, à un moment donné, on programme pas deux, trois petites choses,
c'est
comme tout le monde, quoi. On se laisse envahir. Hein.
Ouais, et puis comme tu dis, au lieu de se concentrer, certaines personnes peuvent se concentrer sur le passé, sur ce qui ne va pas, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas fait ci, t'es rentré trop tard, etc. Mais ce moment de projection, c'est rare aussi de juste se dire où est-ce qu'on avait envie d'avancer main dans la main ensemble ? Est-ce qu'on peut avoir des projets, même des projets court terme ? Est-ce qu'on peut voir notre futur ensemble ? Et des fois, c'est ça qui peut manquer à certains couples finalement. D'être focalisé sur tout ce qui ne va pas ou le passé, et puis plus avoir ces moments-là de projection. Donc, je trouve ça très intéressant, ton apéro comme sandwich.
Ouais, de la légèreté. La vie, aujourd'hui, notre quotidien, il est bourré de contraintes aussi, de devoirs, de plein de choses, hein, et de pouvoir aussi s'autoriser ces moments de légèreté et vraiment les faire vivre, ces moments-là, pour moi, c'est très, très important.
Et alors, ma question finale. Si les gens devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait selon toi ?
Une seule chose, Camille, oh là là.
La première qui te vient, c'est pas forcément la plus importante.
Ok, alors la première qui me vient, c'est qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes dans le sexe. Je crois que c'est la première chose qui me vient en tête. C'est-à-dire qu'arrêter avec ces normes, ces chiffres, ces ci, ces ça, il n'y en a pas. C'est du fake ou en tout cas, ce n'est pas la vôtre et c'est la vôtre qui est la bonne. Voilà moi en tout cas ce que j'ai envie de dire de la sexualité.
Ouais, donc retenez qu'une chose, c'est que la norme, c'est la vôtre, on s'en fiche du reste, quoi. Le reste vous importe peu, concentrez-vous sur vous et votre couple et ce que votre couple a besoin et envie. Merci pour ça, Myriam. Du coup, est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Et puis aussi, avant ça, est-ce que tu veux dire quelques mots pour ton livre que tu viens de sortir quand même ?
Alors, le petit carnet de voyage intime, c'est un carnet que j'ai réalisé parce que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de journal, en gros, intime pour les adultes. Donc, tu vois, toujours cette continuité de pouvoir encore un peu rêver, écrire, noter. Et que en sexothérapie, moi, très souvent, je préconise d'écrire. Très souvent. Écrivez, notez, mettez votre état d'esprit, essayez de noter, de repenser les choses, etc. pour qu'on puisse avancer parce que, parfois, c'est tout emmêlé dans la tête. Et ce carnet, il a été conçu pour retracer, en fait, toute notre intimité. Donc, je parle au moment de l'adolescence, à peu près là où je démarre le carnet, jusqu'à aujourd'hui. Et à l'intérieur, donc, c'est guidé. Il est guidé par plein de questions que je pose, par des petits tips que je donne, des conseils, etc. Il est guidé pour que les personnes, du coup, puissent se l'approprier, se le faire vivre et, du coup, pouvoir avoir une espèce de je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un recueil, en fait, un recueil de leur construction intime. Vraiment, c'est comme ça que moi, je le perçois. Je trouve que c'est un excellent outil, déjà, comme je disais, thérapeutique. Je trouve que c'est un excellent outil aussi pour pouvoir poser les choses et puis peut-être dans quelques années relire en disant « Mais oui, là, j'avais noté ça, mon Dieu, je pense plus du tout ça aujourd'hui ou je suis tellement différente ou là, je noterais complètement autre chose. » Donc, c'est vraiment, c'est pas, il n'y a pas de contenu trop théorique à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de très léger, avec du type, des recommandations et qui guide. En fait, je guide tout le monde à la personne.
Ah oui. C'est ça qu'on aime aussi des fois, un peu de légèreté. Bien sûr, il peut y avoir des livres théoriques, mais pour certaines personnes, des fois, une guidance, en fait, comme tu fais dans ce carnet, c'est chouette parce que ça permet de se poser. Et comme tu dis, c'est un chouette outil aussi pour les personnes qui sont en thérapie. Et même moi, je me dis, waouh, le moi de la vingtaine, j'aurais aimé aussi avoir ça. Et pour, comme tu dis, le regarder aujourd'hui, 10 ans après, de me dire, ah ouais, ça a complètement changé, ou ah ouais, je pensais comme ça, ou ah ouais, tu vois, le palmarès des je sais plus comment
tu l'as engagements.
Des dates. Ça, mais je l'aurais fait pendant ma dating life. Enfin, c'est ce que je faisais déjà, hein, sur papier. Alors après, bien sûr, il y a des plus et des moins. On va dire, c'est pas l'idéal des fois de noter les gens, etc. Mais l'idée, c'était plus de se concentrer sur son plaisir ou ce qu'on a aimé, vraiment comme une sorte d'introspection qui nous livre finalement ce qu'on apprécie au moment T, puisque ça peut changer, comme on disait, du jour au lendemain, ou ça peut changer au fil des ans, quoi. Et alors les gens, s'ils veulent te retrouver, s'ils veulent consulter avec toi, où est-ce que ça se fait?
Alors, sur mon site internet, s'ils veulent consulter, alors très très honnêtement, je suis très full cabinet, donc c'est important quand même de le dire. Aujourd'hui, tu vois, on est enregistré podcast là, on est octobre et je n'ai pas de disponibilité avant 2023. Je n'ouvre pas de créneau. Donc, mon objectif principal, si tu veux, ce n'est pas forcément, en tout cas, de faire de la séance. Mais si les personnes ont besoin, évidemment, c'est possible. Donc, via le cabinet ou en visio. Et puis ensuite, on peut me retrouver sur mon compte Instagram, sexsex-actualité, et sur TikTok, où on met un peu plus de légèreté. En fait, TikTok, il nous freine. Instagram, c'est beaucoup, beaucoup des posts que je mets écrits, avec quelques petits reels comme ça. Et puis, par contre, TikTok, là, je m'éclate plus sur des trucs très courts, des formats très courts, et puis en vidéo, et uniquement en vidéo, puisqu'on n'a pas la possibilité de faire.
Bah oui, ouais, le TikTok, c'est ce que je disais en intro, je disais la dose de bonne humeur et des bons conseils. C'est vraiment sur le TikTok où on peut vraiment percevoir tout ton dynamisme, ta bonne humeur. Et vraiment, comme tu dis, c'est des courtes vidéos, donc on ressent tout de suite son boost avec plein d'informations. Donc, merci beaucoup pour tout ton travail, Myriam, et merci pour cet échange passionnant. Je te souhaite une bonne continuation. On se tient au courant pour la suite.
Merci à toi, Camille, pour ton invitation. Merci aux auditeurs là, qui ont dû nous écouter pendant ce podcast-là. Et puis, effectivement, peut-être à bientôt sur un autre podcast.
Yes. Salut, Myriam. Bonsoir. Ciao. À tout le monde. L'intention de cet épisode était que vous puissiez découvrir un peu plus ce qu'est une thérapie de couple, pourquoi les couples vont en thérapie, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, quels sont les outils qui peuvent être proposés, quelle est la démarche, voilà, plein de choses en fait finalement. Et comment déconstruire aussi des croyances qu'on peut avoir et qui peuvent nous limiter justement dans cette évolution de couple, comme le disait si bien Myriam. Si vous dites pourquoi pas pour faire une thérapie de couple, je vous invite à en parler avec votre partenaire, voir ce qu'il en est pour lui ou pour elle, et puis ensuite de chercher un ou une thérapeute de couple qui puisse vous accompagner dans ce processus-là. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, ou si vous avez dit tiens, j'ai une amie qui pensait faire une thérapie de couple, elle hésite, ou mon frère, ou un voisin, etc., je vais lui partager cet épisode. Allez-y, partagez ce que Myriam Braiki nous a échangé tout au long de cet épisode. Si aussi cet épisode vous a plu, ou de manière générale, si le podcast vous plaît et que vous ne l'avez pas encore noté sur votre plateforme d'écoute, que ce soit sur Spotify, sur Apple, que vous n'avez pas encore mis votre commentaire, des étoiles ou un cœur, mettez pause. Allez tout de suite mettre un commentaire, mettre un avis, mettre vos petits cœurs, vos petites étoiles, je me répète. Mais c'est vraiment important pour la visibilité du podcast et pour continuer à finalement diffuser ces échanges. Donc si vous l'aimez, si vous prenez du bon temps à écouter ce podcast, on a tous et toutes à y gagner, à ce qu'il soit bien référencé et visible pour continuer ce travail-là ensemble. Et je vous remercie du fond du cœur de le faire. Et si vous l'avez déjà fait, merci pour le temps, parce que je sais que ça demande du temps, même si ça prend 2-3 secondes. Ça demande quand même de votre temps, d'arrêter ce que vous faites pour le faire. Donc merci, merci pour ça. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe, où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet camillebataillon.com ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon, où je partage justement aussi les actualités du podcast. Et en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite à tous et à toutes de belles expériences intimes.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.